enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Regardons maintenant dans la parole de Dieu, au livre de Ézéchiel, chapitre 22. Nous allons lire Ézéchiel, chapitre 22, le verset 31 dans quelques instants. Si vous n'avez pas de Bible, tous les passages bibliques vont apparaître à l'écran. Toutes les notes que vous voyez apparaître à l'écran sont disponibles pour vous à la fin de chaque semaine, de chaque message. Et toute la série entière, est en ce moment sur Internet. Des gens en ce moment jusqu'à une trentaine de pays nous écrivent pour dire qu'ils prient avec nous, participent avec nous. Alors que ici, localement, nous sommes dans c'est le jour 14 aujourd'hui du 21 jours de jeûne et de prière. Nous sommes au jour 14 de cette série ayant comme thème de ce jeûne et ce temps de jeûne et prière qui a comme thème « Seigneur, augmente notre foi ». Nous avons, je me réjouis de voir partout dans l'Église, toutes les sphères de l'Église, de la prière qui prend place. Les pasteurs ont été à l'extérieur dans une retraite de jeûne et de prière. Des leaders ont eu des réunions de prière spéciales, les diacres, les anciens. La jeunesse a toutes sortes de réunions de prière spéciales. Pasteur Jacques a amené les célibataires dans un temps d'une journée de jeûne et prière à l'extérieur. Les couples, les hommes ont eu des soirées et des réunions de prière. Les femmes de l'Église étaient en prière hier, le leadership des femmes pour une journée entière de jeûne et de prière. Et je crois que le cœur de Dieu prend plaisir lorsque l'accomplissement de sa demande prend place aujourd'hui. Ma maison sera appelée une maison de prière. Et nous sommes, en même temps, nous encourageons, et des centaines d'entre vous l'avez fait, nous encourageons chaque personne de l'Église à se procurer, si vous le voulez bien, vous avez cette direction de le faire, d'acheter le livre que j'ai écrit, « Seigneur, augmente notre foi », parce que ça vous permet, pendant toute la série, d'entendre le message de dimanche et de lire dans le livre de la semaine, de suivre la série et d'approfondir l'œuvre de Dieu dans votre cœur. Et je me réjouis de ce que Dieu fait à travers ce livre. Je l'ai écrit l'an dernier pendant le 40 jours de jeûne et prière. Ça a été écrit au jour 38. Le livre était terminé. Et on a eu vraiment, je suis béni de voir les témoignages qu'on entend. Soit des dizaines et dizaines de emails. Il y en a quelques-uns que je vais vous lire. Simplement, vous remercier pour vos prières et aussi vous témoigner de la... Je voudrais encourager chaque personne qui est ici. Il y a quelque chose que Dieu met sur votre cœur. Il y a un rêve que Dieu met sur votre cœur. Quelque chose qui vous semble impensable, qui vous semble inatteignable, d'écouter la voix de l'Esprit et d'oser simplement y aller, oser agir, parce que Dieu peut nous surprendre dans comment il va utiliser ce qu'on lui donne, nos petits pains et nos poissons, alors que lui le multiplie. Penchez-vous vers quelqu'un près de vous et dites-lui, vas-y, t'es capable. Dites ça à la personne que vous êtes vous. J'ai écrit ce livre-là l'an dernier et je n'ai simplement aucune idée de tout ce que Dieu pourrait faire. Quelques témoignages concernant le livre qui m'ont grandement béni. D'un surintendant d'un mouvement baptiste québécois, qui a plusieurs églises au travers du Québec, qui m'écrit, « Je recommande le livre « Seigneur, augmente notre foi » à tous les chrétiens et à tous les pasteurs de notre mouvement. Ce livre a révolutionné ma vie spirituelle après 40 ans de marche avec Dieu. Chaque chrétien du Québec devrait le lire et le relire. » Un pasteur de France écrit, « Votre église est utilisée de Dieu pour un réveil dans nos églises et nos trois annexes, trois églises filles. Après une naissance par une action de Dieu il y a 50 ans, nos églises étaient éteintes, sclérosées, sans passion, sans vie. C'est un de mes anciens plus endurcis, des plus amers et fermés, qui a lu votre livre et qui a expérimenté une grâce et un nouveau baptême de l'esprit et de prière en le lisant. Nous avons décidé de faire dans toutes nos églises des séries de réunions de repentance et de réveil basées sur les chapitres du livre. Nous permettez-vous de le faire? » C'est après ce qu'il m'écrit, ça fait 6 mois qu'ils le font. Combien croient qu'on devrait leur permettre de le faire? Nous voulons que tous nos chrétiens lisent le livre et découvrent l'explosion de foi et de puissance qu'on y retrouve. Une dame qui écrit, qui fait l'écho de beaucoup de gens qui m'ont écrit, ça me bénit beaucoup. J'ai donné le livre à Seigneur augmente notre foi à ma mère qui a 79 ans, une catholique hyper pratiquante que je n'ai jamais réussi à convaincre que je n'étais pas dans une secte. Depuis qu'elle a lu votre livre, elle les prête à toutes ses amies de son église et en ce moment, c'est son curé qui est en train de lire votre livre. Elle est même venue à l'église pour la première fois pour vous rencontrer en disant en personne. Elle a pleuré du début à la fin en disant « Ah, que c'est beau !» Et un dernier, mon fils de 19 ans vivait une révolte contre les églises évangéliques. Il était en colère et ne voulait rien savoir. Il a lu votre livre presque de force parce que par pression de ma femme, sa mère. Puis il l'a dit merci au Seigneur pour les mères qui lâchent pas. Puis il a relu une deuxième fois. Il vous a écrit un très long courriel et je vous remercie de lui avoir répondu. Ça fait 3 fois qu'il vient avec nous les dimanches matins et il me dit « Maman, mes amis à l'université ne savent même pas qu'une église comme Nouvelle Vie existe. La dernière fois, il a acheté 2 livres pour 2 de ses amis. Merci d'avoir écrit ce livre qui a ramené mon fils à l'église et au Seigneur. » Au-delà du livre « Augmente notre foi », c'est la vision et l'intention de Dieu pour chaque personne qui entend ce message, que ce soit ici, que ce soit par l'émission de radio ou que ce soit les milliers qui l'écoutent sur Internet. Chacun de nos jeunes, chacun des jeunes de début d'année ont une personnalité, ont une saveur différente, ont une intention différente. Dieu veut toujours les grandes choses universelles qu'il désire pour nous. Mais par exemple, en 2005, on est sorti du jeûne avec les mots « sans précédent ». J'avais sur mon cœur, j'ai enseigné à l'église une série de messages et par la suite dans tous les départements. Des mois à l'avance, il y avait dès janvier cette espèce de solennité, cette espèce de clarté dans nos cœurs, sans savoir quoi que ce soit qui était pour arriver, que 2005 était pour être une année sans précédent, une année de grands changements. Et lorsque nous arrivons en 2006, depuis le début du jeûne, une des choses qui brûlent sur nos cœurs, je pourrais presque dire que le thème spirituel du jeûne, c'est de voir l'invisible, de croire l'impossible et de renverser l'irréversible. Et nous avons sur nos cœurs que des choses qui s'est, et nous commençons à voir sur nos yeux des miracles, des témoignages miraculeux. S'il y a quelque chose qui semblait pas relevable, irréversible, inchangeable, comme ça pour de bon dans vos vies, le thème du jeûne et prière, c'est que cette foi augmentée nous permet de voir l'invisible, de croire l'impossible et de renverser l'irréversible. Nous prions avec les paroles de Romains chapitre 4 qui brûlent sur nos cœurs, le verset 14 à 21. Et voici, écoutez cette parole pour nous aujourd'hui. Je t'ai établi devant Dieu, en qui tu as cru. Dieu dit ça à chacun d'entre vous. Je veux t'établir devant moi, en Dieu en qui tu as cru. Et voici qui il est ce Dieu et ce que notre foi a besoin de saisir, qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence ce qui n'existait pas. Il y a brûlant dans notre esprit que le jeûne 2006 est un jeûne, ce 21 jours de jeûne. Et toute l'année va être une année où nous allons voir des choses irréversibles être renversées. Ce qui n'existait plus, exister à nouveau. Ce qui n'existait pas, exister pour la première fois. Ce qui était mort, reprendre la vie. Dites amen n'importe quand que ça vous tente. Sans faiblir dans la foi, vous croyez et donnez gloire à Dieu, pleinement convaincu. Voulez-vous dire à voix haute, pleinement convaincu. Pleinement convaincu de ceci, ce que Dieu a promis, il a la puissance de l'accomplir. Il y a une espèce de nom, pas un nom charnel, humain, enfantin qui tape du pied, mais il y a une espèce de refus. Mon épouse me parlait de gens dans les réunions de prière, les réunions des dames. Le mercredi matin, je l'ai pas mentionné dans les annonces, ce mercredi comme tous les mercredis, elle anime la réunion de prière des femmes. Mercredi soir, 7h, la réunion de prière pour toute l'église. Un pasteur qui anime prédication de prière. Le Chantal me parlait dans différentes réunions de prière, des gens qui lèvent la voix avec un saint refus. Des gens qui disent « Je refuse! Je refuse cet état de choses. Je refuse par la puissance du nom de Jésus cet état de séparation, cet état de destruction, cet état de mort, cette relation, cette personne attachée et liée. Quelque chose en nous qui dit, par la foi, je vais voir l'impossible, voir l'invisible, croire l'impossible, et nous pouvons renverser ce qui était irréversible. Une foi qui n'accepte pas l'état des choses actuelles. Une foi qui est pleinement convaincue que ce que Dieu a promis, il a le pouvoir de l'accomplir, donne entièrement la gloire à Dieu. Je suis d'accord avec Jim Cimbala, pasteur Jim Cimbala et pasteur Jack Hayford lorsqu'ils disent, bien que le monde ait fait des pas de géant dans sa compréhension de l'ampleur, de l'immensité et de la capacité du pouvoir de l'énergie atomique ou de la fusion nucléaire, la plupart d'entre nous vivons encore avec très peu de compréhension concernant la plus ancienne, éternelle et actuelle source de puissance qui existe dans notre univers, la puissance de la prière. En fait, la majorité des églises et des croyants n'ont pas encore commencé à expérimenter les possibilités et la puissance infinie qui devient disponible lorsque nous décidons de faire appel au Seigneur en prière. Je suis d'accord avec Jack Hayford lorsqu'il écrit, nous devons comprendre que notre Dieu souverain a pour ses propres raisons éternelles et divines conçu cet univers de façon à ce que ce qui est véritablement en lui et lui appartient est rendu conditionnel aux attitudes et aux actions et décisions des êtres humains. Il y a des choses que seulement Dieu peut faire, mais il a choisi de, qu'il peut seulement les faire en réponse à nos décisions et actions à nous. Il permet, désire et même appelle les êtres humains à prendre des décisions de prière, de communion, d'intercession qui changent l'histoire de leur vie et de leur entourage. Dans la prière, dans notre appel d'intercesseur, l'inaction humaine ne peut pas annuler l'œuvre de la croix. Mais l'inaction humaine peut rendre l'œuvre de la croix inefficace et inutile pour ceux qui sont perdus. C'est pourquoi nous prions, Seigneur, augmente notre foi. Et nous avons vu ensemble, dans cette prière, augmente notre foi 2006, la foi avec une révélation. Sans la foi, il est impossible de. Et nous avons vu ensemble la foi qui retrouve sa puissance. Et nous avons vu dimanche matin dernier, un moment solennel, un moment assez saisissant dimanche matin dernier, ou vers le milieu de la prédication, de toutes mes années que je prêche, j'ai été dans beaucoup de réunions, mais il y a longtemps, à Nouvelle-Vie, que je n'avais pas vécu un moment comme celui-ci, où à partir du milieu de la prédication, il y a une couverture de la présence de Dieu qui était là. Je n'ai jamais vu autant de gens être touchés, pleurer, et je n'ai pas la pensée une seconde que c'est seulement ceux qui manifestent quelque chose extérieurement qui sont touchés intérieurement. Mais il y avait ce sens de la présence de Dieu, la foi qui rebâtit son autel. Et quelle scène divine, dimanche dernier, de voir 1000 personnes s'avancer afin de, le 22 janvier 2006, rebâtir un autel à l'Éternel. Ma fille était dans sa classe, elle a 12 ans, ma fille adolescente était dans sa classe, puis lorsqu'elle a sorti, elle a vu tous les gens qui sortaient de l'église, puis elle a dit, « Papa, t'es chaud! » Si vous n'avez pas un ado, vous ne savez pas ce que ça veut dire, mais ça veut dire plein de choses. Ça veut dire, elle dit, « Papa, t'es chaud! » Elle dit, « Qu'est-ce que tu leur as fait? » Elle dit, « Tout le monde sortait en pleurant. » Elle dit, « J'ai vu des centaines de personnes sortir en pleurant. » Elle dit, « Papa, t'es chaud! Qu'est-ce que tu leur as fait? » Elle a dit, « T'aurais dû me dire, dis-moi la prochaine fois que tu vas faire ça, je vais être là. » Premier message que c'est pas quelque chose d'humain qui prend place. C'est quelque chose qui est divin par l'action de Dieu ou des hommes et des vents. Combien ont repris quelque chose de l'ennemi la semaine passée et ont rebâti un autel à l'Éternel? Criez Amen et applaudissez-le en pleine face de l'ennemi ce matin. Come on! Dans notre série Seigneur augmente notre foi ce matin, nous allons continuer la semaine prochaine avec ce que j'appelle la foi qui représente Dieu et qui reprend de l'ennemi. Ézéchiel, chapitre 22, et le verset 30. La voix de Dieu se fait entendre, et c'est un appel. Et cet appel retentit jusqu'à ton cœur, à toi, aujourd'hui. Je cherche un homme, une femme parmi eux, un homme qui les protégera et qui bâtira un mur, élèvera un mur de protection. Je cherche un homme, je cherche une femme qui se tient sur la brèche, devant moi, en faveur du pays, ou en faveur du peuple, ou en faveur des captifs. Quelqu'un qui va se tenir devant moi, dans la brèche, entre les morts et les vivants, en faveur du peuple, afin qu'il ne soit pas détruit, mais je n'en trouve pas. Le nom Ézéchiel veut dire « accroché à Dieu ». Et Ézéchiel était appelé à représenter Dieu afin de reprendre de l'ennemi. Ézéchiel représente l'appel qui est sur toi ce matin et sur moi, la décision que nous allons avoir à prendre, à ne pas lâcher, à ne pas abandonner au milieu d'une génération qui lâche tout. L'appel à s'accrocher à Dieu et à la maturation de ta foi, que en devenant chrétien, tu n'es pas seulement appelé à venir à l'église ou à pouvoir compter sur Dieu comme une manette d'urgence lorsque tu es dans le trouble, mais que d'être un croyant, c'est aussi l'appel d'avoir la foi. De prier, Seigneur, augmente notre foi, c'est aussi cet appel à répondre à Dieu et à dire, oui, j'accepte d'être un représentant de Dieu. Je représente Dieu dans mon foyer, Je représente Dieu auprès de mes enfants. Je représente Dieu à mon travail, à l'école. Je représente Dieu dans mes réactions, dans mes actions, dans mes paroles, dans mes valeurs, dans ma vie publique et personnelle. Je représente Dieu par ma générosité, par mon pardon. Je représente Dieu. L'Église est appelée, non pas à être des petits groupes isolés un peu partout sur la surface du Québec qui se rencontrent et se font du bien entre eux. L'Église appelée à être la représentation de Jésus-Christ dans la province de Québec et dans la francophonie. Appelée à représenter Dieu. Appelée à une brèche d'intercession. Au moment où l'appel a retenti, le peuple était en captivité. Les gens avaient abandonné Dieu. La majorité autour d'Ézéchiel était complètement donnée à l'idolâtrie. Personne, c'était une infime minorité qui avait une pensée pour Dieu ou sa parole. La parole de Dieu était rare à cette époque, comme disent les textes qui parlent de la même période historique. Ézéchiel est appelé, il est dans une situation qui semble irréversible, une situation qui est comme ça et qui ne fait qu'empirer. Et Dieu dit, il y a longtemps que je fais cet appel, mais je n'en trouve pas, je ne trouve personne pour y répondre. Et Ézéchiel est appelé, et la voix de Dieu se fait entendre en 2006, à une société qui lâche tout. Dans un monde d'hommes et de femmes qui lâchent tout, lâchent leurs responsabilités, lâchent leur mariage, lâchent leurs enfants, lâchent leur responsabilité. Là, dans une église chrétienne qui lâche la prière, lâche le lieu de Dieu, lâche la maison de Dieu, lâche leurs appels, lâche leur mission, il y a une voix du Saint-Esprit qui dit, j'appelle un peuple qui par ma force, et par ma grâce, va rester accroché à moi, va revenir s'accrocher à moi et me représenter afin de reprendre à l'ennemi ce qu'il avait volé. Si vous voulez en faire partie, voulez-vous crier « Amen » dans ce lieu ce matin? La foi qui représente et la foi qui rencontre Dieu afin de reprendre. Le mot « intercession », si je dis le mot « intercession », la majorité des gens vont dire « c'est quoi? Donnez-moi un mot, une association de mots », les gens vont répondre « prière ». Et l'intercession est quelque chose qui se fait en prière, mais pas seulement en prière. Parce que le mot intercession ne veut pas dire synonyme seulement de prière. Intercéder, je me tiens debout un intercesseur, j'appelle quelqu'un à se tenir debout. À chaque fois que vous trouvez le mot intercession dans les Écritures, paga dans l'Ancien Testament, ça veut dire être debout entre deux, passer entre deux dans un but de réconciliation, de médiation, s'interposer afin de défendre. Quelqu'un vient et ça s'en vient attaquer mon enfant. Je me tiens devant, je suis un intercesseur. Quelqu'un s'éloigne de plus en plus de quelqu'un qui l'aime. Je me tiens entre les deux pour le ramener. Je suis un intercesseur. Est-ce que vous me suivez? L'intercesseur, debout entre deux. Rencontrer pour quelqu'un d'autre. Dieu désirait, dans l'intention parfaite de Dieu, son désir pour l'être humain, pour l'homme, c'est que nous soyons son représentant sur terre. Dès le livre de la Genèse, Dieu a dit, Genèse chapitre 1, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » Alors Dieu les bénit et il dit, « Soyez féconds, multipliez-vous, dominez. » Et l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin pour le garder. Parce qu'on regarde à ce texte-là bien connu de la Genèse, il y a plusieurs mots clés. Le mot Adam, ce n'est pas seulement un prénom, ça parle, veut dire humanité, l'homme, incluant homme et femme, bien sûr. Et l'homme, l'humanité, est appelée à dominer, makal, à gouverner, à représenter, à intercéder, à être entre Dieu, entre deux. Entre la terre et Dieu, il y a l'homme qui représente Dieu dans toute son autorité. C'est pour ça que Dieu a dit, je l'ai créé, nous allons le créer à notre ressemblance. Tselem, ou la racine du mot démout ou d'ama dans l'hébreu. L'ombre, l'impression, l'illusion de. En termes très simples, vous pourriez le dire de cette façon. Quelqu'un aurait pu dire, j'ai vu passer Adam rapidement, puis alors que je l'ai vu passer pendant un instant, je pensais voir Dieu. Il était créé à l'image de Dieu, par la caractéristique de Dieu, afin de protéger le jardin, d'exercer une protection, une autorité. Les psaumes déclarent que c'est l'intention de Dieu pour tous les êtres humains. C'était le plan de Dieu que l'homme, l'être humain, va représenter Dieu sur terre. Psaume 115, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Tu as fait l'homme un peu inférieur à Dieu, tu l'as couronné de gloire et de splendeur, tu lui as donné la domination, Dieu, le psalmiste du Seigneur, tu as donné à l'homme la domination sur l'œuvre de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds. Nous sommes appelés à représenter Dieu. J'aimerais vous dire que représenter signifie aussi présenter à nouveau. Présenter Dieu à notre province, leur présenter Dieu à nouveau. Leur présenter une autre fois qui Dieu est véritablement. Leur présenter aux centaines de milliers d'enfants de Duplessis de représenter qui est Dieu. Représenter à des milliers de Québécois dont les abuseurs avaient un crucifix dans le cou, leur dire, des milliers qui ont souffert aux mains de personnes qui faisaient des choses horribles au nom de Dieu, nous voulons te représenter qui est Jésus-Christ. Nous voulons te représenter qui est Dieu. Nous voulons te représenter, le représenter à toute une génération qui a abandonné, qui est cynique, qui est méfiante, qui a vu les scandales financiers et tout le reste. À toute une génération qui a gobé le mensonge que Dieu est contre la femme, que Dieu avilit et abaisse la femme. Et toute une génération de femmes qui, lorsque tu dis Dieu ou Église, pensent que la pensée de Dieu est de l'écraser ou de l'avilir ou de la lier ou de l'empêcher de s'épanouir. À toute une génération de jeunes qui pensent que avoir la foi veut dire prendre ton cerveau et le mettre à la poubelle, que tu n'as pas le droit de réfléchir si tu es un chrétien. À toute une génération qui voit Dieu comme inutile et impotent, quelque chose que tu fais à messe de minuit ou que tu fais avant un baptême ou quelque chose comme ça, un rituel quelconque pour avoir une belle noce. Il y a un peuple qui est nous, qui est appelé à leur représenter Dieu, leur présenter un Dieu à nouveau, leur présenter un Dieu à nouveau qui ne veut pas leur mal, mais veut leur bien, n'est pas impotent, mais est tout puissant, ne t'appelle pas à arrêter de réfléchir, mais t'appelle à réfléchir parce que tu n'as jamais réfléchi, et un Dieu qui est une réponse véritable pour leur vie de tous les jours. Quelqu'un devrait dire amen. Nous sommes appelés à représenter Dieu, à le présenter à nouveau. Parce que l'homme, selon 1 Corinthiens 7, est l'image de la gloire de Dieu. À chaque fois que vous trouvez le mot gloire dans la Bible, dans l'Ancien Testament, vous allez voir le mot kabod, qui parle de l'autorité, le poids, de weight, le poids de Dieu, l'autorité de Dieu qui est donnée. Dans le mot gloire en grec, dans le Nouveau Testament, doxa, parle de reconnaissance, apte à reconnaître. Ce qui est quelque chose qui, ce qui fait que quelque chose ou que quelqu'un est reconnu. J'ai tous vécu, moi j'ai vécu ça, on me dit que mon fils me ressemble, ça arrive régulièrement, que des gens d'église disent, oh, quand il a souri, lui-là, j'ai vu son père. J'ai reconnu le père en regardant cette caractéristique-là du fils. Ma femme, lorsque mon fils fait des choses particulièrement saisissantes, a toujours ma mère pour lui dire, oh, ça c'est le fils de son père, qu'est-ce que tu veux? L'intention de Dieu, c'est que les gens puissent nous regarder. C'est lorsque vous faites ça, là, je reconnais Dieu. Quand je vous vois là, nourrir les pauvres, là, je reconnais Dieu. Quand je vous vois là, avec ce pardon-là que je ne comprends pas, qui est complètement inaccessible pour nous, puis je vous vois avec ce type de pardon-là et de grâce-là, lorsque je vous vois avec cette générosité-là, lorsque je vous vois dans les maisons de personnes âgées, lorsque je vous vois tenir la main des gens que tout le monde a oublié dans les maisons de personnes âgées, ou être en train de rencontrer, de faire un souper pour les parents des enfants malades de l'hôpital Ronald McDonald, savez-vous quoi là? Il semble que je reconnais Dieu. Il semble que je reconnais celui que je n'ai plus vu à nulle part ailleurs. Je peux vous dire amen? L'homme à l'image de Dieu. L'homme créé pour représenter Dieu. C'est bien ceci. Adam avait une autorité et était une représentation tellement complète avant la chute, avant le péché. Adam avait une autorité et était une représentation tellement complète et finale sur la terre que c'est lui et non Dieu qui avait le pouvoir de donner son autorité à un autre. Lorsque Satan a confronté Jésus, pendant que Jésus jeûnait, Satan est arrivé face à face, le diable, avec Jésus, puis lui a dit ces mots, Luc chapitre 4. « Je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car le pouvoir, l'autorité, m'a été remise. » Et là, Satan a menti, il a dit « Et je la donne à qui je veux. » Il ne pouvait pas la donner à qui que ce soit, mais là où c'est la vérité, c'est que Satan a dit « C'est Adam qui me l'a remis. » Il a abdiqué. Il a abandonné. Il m'a remis sa position. Il m'a remis l'autorité. Il me l'a abandonné. Il me l'a laissé. Comme Ésaü dans l'Ancien Testament a vendu pour un bol de nourriture, pour de la chair, pour une satisfaction temporelle et humaine, pour une gratification humaine, Ésaü a vendu, a laissé aller un droit qu'il avait d'aîné, un droit qui représentait quelque chose spirituellement. Adam était appelé à être la représentation de Dieu, et c'est lui qui l'a abandonné, abdiqué. Et lorsque, dans le jeûne et la prière, je marchais et priais en fin de journée, une journée cette semaine, il y avait ce frisson dans mon esprit, il y avait ce frémissement dans mon esprit. Je disais, Seigneur, et pendant qu'on fait le message, je suis en train de porter le message ce matin, il y a une équipe de gens qui sont en prière pour, comme à chaque dimanche, pour cette réunion. Je marchais dans le bureau, je priais, je disais, Seigneur, que dans ce moment-là du message, tu viennes par ton Saint-Esprit. Alors que la question de Dieu est posée à toi ce matin. Est-ce que tu as abandonné quelque chose à l'ennemi? As-tu abandonné ton appel? Lui as-tu laissé ton autorité? Lui as-tu laissé ta place? Lui as-tu laissé tout ce que Dieu avait pour toi? Parce que le premier Adam est venu, l'homme a abandonné son autorité à Dieu. Suivez bien ceci. Parce que le premier Adam a péché, Dieu n'est plus reconnaissable. Dieu n'est plus représenté dans l'humanité. La parole de Dieu, le désir de Dieu, c'est que voici l'homme, vous allez me reconnaître en lui. Il va me représenter. Il va avoir l'autorité sur les choses de la terre. L'autorité, il va représenter mon amour, mon pardon, ma grâce, ma sagesse, ma joie, ma paix. Il va représenter qui je suis. Mais alors que le péché vient et que l'homme, l'humanité, abdique sa position, abandonne, lâche, rend, donne sa position à ce qui est de l'ennemi, ce qui est des ténèbres et ce qui est de la chair, plus le péché fait son œuvre de génération en génération, suivez-moi bien, le premier Adam vient et il abdique sa position et Dieu n'est plus reconnaissable dans l'être humain. Le péché déforme jusqu'à rendre difforme. Le péché fait qu'on peut ouvrir le journal de Montréal hier et les cœurs les plus durs s'arrêtent un instant, même si on est si désensibilisé. Les cœurs les plus durs peuvent ouvrir le journal hier. Il y a des frissons qui nous passent en disant, qu'est-ce que l'homme devient? Qu'est-ce qui arrive à un être humain, à un jeune homme, qui n'a même pas 20 ans, qui rentre dans un dépanneur et qui bat à mort une petite fille pour quelques piastres? Ça bat comme un animal. Qu'est-ce qui arrive à l'homme? L'homme, tu ne vois plus Dieu dans l'homme. Tu ne vois plus. L'homme, par le péché, devient déformé. Il devient difforme. Tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de l'ennemi, tout ce qui est sombre, tout ce qui est mensonge, tout ce qui est hors de contrôle en lui prend le dessus. Est-ce que vous me suivez? Parce que vous lisez le journal et que vous voyez une banque que peut-être vous fréquentez ici même à Longueuil, un monsieur qui sort de la banque et que l'autre mal frappé à coups de crosse de fusil, et que là tu vois la dame dans la télévision que elle, son mari dans le coma qui a été frappé pour quelques piastres à la sortie du guichet automatique, et son mari dans le coma, puis elle a un mari dans le coma et deux enfants handicapés à la maison, puis elle est là, puis quelqu'un comme ça dans une violence complètement inexplicable. Lorsque hier, il y a toute l'enquête maintenant autour d'un foyer d'accueil. Parce que des enfants qui sont tellement mal pris, tellement brisés par la vie, tellement à bout, vous savez à quel point les services sociaux font tous les efforts pour garder les enfants dans la maison originale, dans la maison paternelle, la maison maternelle, dans le lien de sang. Mais lorsqu'ils doivent prendre un enfant, et tout le traumatisme que ça représente, de le sortir de là pour le mettre dans un foyer d'accueil, et que maintenant il est dévoilé que ce foyer d'accueil-là, depuis des années, les abusait sexuellement. Imaginez-vous l'enfant, l'homme qui devient difforme, l'homme qui devient déformé. Le premier Adam, par le péché, permet que Dieu ne soit plus reconnaissable dans l'humanité. Mais parce que le premier Adam a péché, Dieu n'est plus reconnaissable dans l'humanité. Mais suivez bien ceci. Mais parce que le deuxième Adam a intercédé. Combien savent qui est le deuxième Adam? Jésus-Christ est le deuxième Adam. Le premier-né de la nouvelle création, nous dit les Écritures. Parce que le deuxième Adam, Jésus, est venu et il a intercédé. Suivez-moi. Il a donné sa vie entre Dieu et les hommes. Nous pouvons être transformés et devenir de plus reconnaissable à plus reconnaissable et de jour en jour, de gloire en gloire, être transformés par la puissance du Christ ressuscité qui a intercédé pour nous. Quelqu'un devrait dire Amen pour la meilleure nouvelle. Applaudissez le deuxième Adam. Paul dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés. Dites à voix haute, transformés. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, de doxa en doxa, de un peu plus reconnaissable à un peu plus reconnaissable, de je reprends ma position devant Dieu à je reprends un peu plus ma position devant Dieu. Comme le Père m'a envoyé, a dit Jésus, moi aussi je vous envoie. Comme le Père m'a envoyé sur terre pour être un intercesseur, pour me tenir entre lui et la terre et pour le représenter. Et Jésus a dit, lorsque vous voyez le Père. Tout l'amour, la puissance, l'onction, toute la paix, tout le pardon, tous les plans du Père, vous les trouvez en moi. Et Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la doxa, à lui soit la représentation, par, non pas par nos efforts, mais par la puissance de Dieu, par la prière, la recherche de Dieu, la dépendance et la foi en Dieu, nous pouvons, par cette force-là qui est en nous, représenter Dieu en 2006 dans la province de Québec. Représenter Dieu, à lui soit la gloire, dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles, jusqu'au 29 janvier 2006, Église Nouvelle Vie, et toute l'Église qui entend ce message crie un grand à lui la gloire pour la représentation de Dieu, la foi qu'ensemble, corporativement et individuellement, nous représentons Dieu. J'arrive à la fin du message. Si tu as la personne près de toi, habituellement, il reste trois fins là qui dit ça. Tu commences à rentrer comme un merveilleux flot de vie, des emails et des témoignages de gens qui ont été touchés pendant les concerts de Noël, touchés pendant la distribution de paniers. Je lis les emails, on rappelle les gens, souvent les gens disent, vous pouvez lire ma lettre, etc. Des lettres qui sont tellement personnelles, qui racontent des choses tellement poignantes qu'on ne peut pas lire ça publiquement. Il y a déjà plein de gens qui témoignent. En ce moment, dans les dernières semaines, de semaine en semaine, nous dépassons toute espèce de record d'assistance possible de n'importe quelle autre année. Et je sais que c'est parce que il y a un peuple, on le fait toute l'année, il y a des moments comme en décembre où vous avez des centaines d'entre vous bénévoles, vous avez représenté Dieu, présenté le Seigneur à nouveau à une génération qui ne le connaissait pas. Lorsque le concert de Noël a pris place et que plus de 5000 personnes sont venues, dont probablement plus de 2000 personnes qui étaient nouveaux, lorsque pendant des heures et des heures, tous les membres des chorales, tous les chanteurs, chanteuses, tout le monde ont travaillé, ont peiné, ont prié, ont cherché la face de Dieu. Pendant que le concert prenait place, et avant, il y avait des gens qui priaient pour le concert, il y avait une onction, il y avait une action de Dieu qui prenait place, afin que nous rencontrons Dieu, afin de le représenter et de reprendre à l'ennemi ce qui appartient à l'Éternel d'une personne à la fois. Dans le concert de Noël et pendant les distributions de paniers, lorsque les milliers de jouets ont été distribués, lorsque les milliers de cadeaux ont été distribués, il y a toute une action divine qui prend place. Et une des lettres que j'ai reçues, la dame donnait tout de suite la permission de la lire. Elle vient à l'église, elle était probablement ici ce matin. Elle est très courte. J'aimerais que vous puissiez. Je la lis pour les bénévoles. Je la lis pour tous ceux qui ont travaillé si fort. Je la lis aussi pour toute une église. Que Dieu puisse imprégner dans vos cœurs que nous sommes appelés en 2006 à le représenter et à renverser ce qui est irréversible. Je ne crois pas une seconde que les millions de Québécois croient Dieu, croyons leur vision de Dieu, ça sera jamais autre ça, il va être autre que ça, ils vont être cyniques, ils vont mépriser, ils vont avoir peur, ils vont être indifférents. Je déclare l'année 2006 une année où pour des milliers de personnes, ce qui était irréversible va être renversé, alors que chacun d'entre nous prenons notre place avec nos dons, nos talents et notre prière afin de rencontrer Dieu, afin de représenter Dieu à nouveau, et des milliers vont le connaître. Je déclare une année où des milliers vont venir à la foi dans le nom de Jésus, et que l'Église dise amen alors qu'on va le représenter. Si on peut mettre l'image des paniers à l'écran. Cher pasteur Wood, je vous écris en janvier 2006, ce qui devrait être le commencement d'une année complètement nouvelle pour moi et mon mari, grâce à Dieu et à l'Église. Mon mari haït les églises depuis qu'il a été abusé pendant des années dans des pensionnats. Il n'est pas le seul. J'ai déjà eu des lettres comme ça dans le passé. C'est pas le même homme. Il a été violenté, frappé, attaché. Même violé pendant des mois et des mois alors qu'il était tout petit enfant sur plusieurs années scolaires. J'ai commencé à venir à Nouvelle Vie en janvier 2003. C'est mon église et j'ai donné ma vie au Seigneur pour vrai. Mais mon mari n'est jamais venu. C'est un homme de cœur, généreux, mais très violent dans son caractère, surtout lorsqu'il buvait. Ça faisait des mois que mon groupe de prière priait pour lui. Il aime la musique et la musique de Noël encore plus. J'ai prié et prié et je l'ai invité au concert de Noël et de l'église. Il a dit, j'irai jamais là de ma de vie. Elle a mis un espace elle aussi. Combien sont reconnaissants pour l'espace qu'elle a mis? Le jour du concert, j'étais assise à ma place. Et deux minutes avant que ça commence, je le vois arriver. Je pensais qu'il avait jeté le billet. Pasteur, c'est pas compliqué. À la fin, il pleurait. Tellement qu'il ne pouvait plus arrêter. Il est venu avec moi pendant la distribution des jouets et des paniers de Noël juste pour voir ça. On est arrivé face à face avec son frère, son propre frère. Est-ce que vous comprenez que probablement 7-8 000 personnes qui passent ici pendant ces 48 heures-là, je crois que c'est la main divine qui orchestre toutes choses, que dans les minutes où cet homme-là est là, il arrive face à face. On est arrivé face à face avec son frère, sa belle-sœur et ses neveux, qui recevaient un panier et un carrosse plein de cadeaux. Ils ont parlé un peu, ils étaient en chicane depuis des années. Et dans le tout, il m'a dit, c'est mon frère qui a perdu sa job, c'est mes neveux, ma famille, mais c'est ton église qui les aide. C'est lui qui m'a demandé à venir à l'écrire avec ses mots, puis je laisse exactement les mots qu'elle a écrits. La madame me dit, c'est lui qui m'a demandé de pouvoir venir à la messe du matin de Noël. Il a levé la main, il a prié, il est devenu chrétien comme moi. On est là presque chaque dimanche. Bientôt, mon mari veut rencontrer quelqu'un pour faire une thérapie, pour l'aider face à son enfance et à la boisson. Je lui ai dit que l'Église s'en occuperait, qu'on a tout ça en nouvelle vie. À qui est-ce qu'on devrait s'adresser pour l'inscrire? En ce moment, il ne boit plus depuis Noël et on prie Dieu ensemble à chaque matin et à chaque soir et ça marche. Dites merci devant tout le monde aux bénévoles du concert et de la journée des paniers de Noël. Ce qu'ils font change vraiment des vies. Je veux appeler l'année 2006 à une représentation de Dieu. Province de Québec, laissez-nous vous représenter le Seigneur. Applaudissez avec moi ce qui va prendre place. Province de Québec, laissez-nous vous représenter qui est l'Église, qui est le Seigneur. Alors que les musiciens s'approchent, je vais continuer dimanche matin prochain. Seigneur, augmente notre foi. Une foi qui représente Dieu, une foi qui rencontre Dieu afin de reprendre l'ennemi. Le mot paga, le mot intercesseur, veut dire littéralement représenter, veut dire rencontrer. Ézéchiel a dit, j'ai été appelé, j'ai entendu la voix de Dieu qui a dit, cherche quelqu'un qui va se tenir dans la brèche, qui va venir me rencontrer. Suivez-moi, en anglais, ils appellent ça a prayer meeting, une rencontre de prière. Dieu dit, je cherche un peuple, suivez-moi bien, qui va me rencontrer afin de rencontrer les besoins de ceux qui sont loin de moi. Même plus fort que ça, c'est la semaine prochaine. Un peuple qui va venir me rencontrer afin qu'il y ait non seulement une rencontre entre moi et les personnes, mais Dieu dit, j'ai besoin d'un peuple qui va venir me rencontrer afin que ma puissance puisse rencontrer l'ennemi. Car les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour abattre des forteresses. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre des dominations, contre des principautés, contre des anges de ténèbres, des princes de ténèbres dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenant toutes les armes de Dieu et priant sans cesse afin de tenir ferme, nous combattons cette pensée qu'il y a des gens en ce moment qui ont besoin d'une rencontre avec Dieu. Il y a des gens qui sont liés et l'ennemi qui les tient a besoin d'un face-à-face avec le Dieu puissant qui est capable de les libérer. Alors l'appel de représenter Dieu, c'est une osmose et c'est un paradigme extrêmement important. C'est une unité, c'est une osmose. C'est deux concepts qui sont absolument essentiels et l'Église n'accomplit pas son œuvre si elle en perd un des deux. Nous sommes appelés à travers toutes sortes d'œuvres, d'actions de nouvelle vie et tout le reste à représenter Dieu. Et sans cela, nous ne le représentons pas. Il y a une église qui, depuis des années au Québec, a la tête dans une chaise, dans des réunions de prière, puis prie pour le miracle de Dieu, et c'est bien. Et pourtant, dans la réalité, le réalisme des choses, ça fait 50 ans qu'ils sont là, il y a la population du Québec qui n'a pas changé. Il y a 50 ans, nous avions moins qu'1% de la population qui était évangélique. 50 ans plus tard, on a encore moins qu'1% de la population qui était évangélique. Une définition de la folie, c'est de faire la même chose de la même façon, de s'attendre à un résultat différent. Pourtant, les gens prient. Non, il y a besoin que lorsque nous sortons du lieu de prière, nous allons vers les multitudes afin de présenter à nouveau Christ. Suivez-moi bien. Mais il y a tout un autre segment du monde chrétien qui, dans les dernières années et siècles, se sont transformés peu à peu en organisme communautaire, en organisme social, en organisme qui essaie d'être le plus cool possible et accepté par le monde séculier. Laissez-moi vous dire qu'à moins qu'il y ait des milliers de personnes qui rencontrent Dieu dans la prière, les besoins des gens ne seront jamais rencontrés. Représenter Dieu, c'est action. Représenter Dieu, c'est tous les services que nous offrons. Représenter Dieu, c'est tout cela, c'est les concerts, c'est le reste. Mais représenter Dieu, c'est aussi des milliers qui vont devant Dieu. Et alors que je vais devant Dieu, je le rencontre et toute une église le rencontre. Et alors que nous le rencontrons, nous pouvons maintenant rencontrer l'ennemi et ses chaînes et nous pouvons aller arracher les chaînes de l'ennemi sur la vie des gens. Et les êtres humains sont changés, consolés, renouvelés, nés de nouveau, remplis de l'Esprit, miraculeusement restaurés alors que nous avons rencontré Dieu. Dieu a rencontré leur ennemi et la puissance de Dieu a rencontré leur vie. Vous pouvez vous dire amen? Je vais le prêcher la semaine prochaine, mais je vais simplement terminer avec le passage de Job qui dit ceci. Il n'y a pas, tu peux commencer. Il n'y a pas entre nous, ô Dieu, d'intercesseur, d'arbitre, de médiateur, qui pose une main sur nous deux, qui pose la main sur l'épaule de Dieu et sur l'épaule des hommes, afin que le bâton s'écarte dessus de moi et que la terreur ne me trouble plus. Job dit, j'ai besoin de quelqu'un. J'ai besoin de quelqu'un qui va mettre une épaule sur la main de Dieu, puis une épaule sur moi, afin de me défendre, afin de me libérer. Il y a un bâton qui est au-dessus de moi, qui me frappe et qui me fait mal. Et j'ai besoin, je ne suis pas capable par moi-même, j'ai besoin de quelqu'un qui va mettre une épaule, une main sur l'épaule de Dieu, et une main sur les hommes. Et qu'alors que cette personne-là va se tenir entre Dieu et les hommes, entre les morts et les vivants, et que lorsqu'elle touche Dieu par la prière, elle touche la foi, la vision, le courage, la libération, la puissance de Dieu. Cette personne-là devient quelqu'un qui peut me toucher moi aussi, qui rencontre Dieu afin de le représenter et de reprendre, qui entre, qui vient. C'est une scène que j'aime tellement. C'est la scène de personnes ordinaires comme nous, imparfaites comme nous, faibles comme nous, de tous les âges. Que vous ayez plein d'éducation ou sans éducation, 30 ans de vie chrétienne ou quelques semaines, une feuille de route brillante avec 5 étoiles dessus dans votre vie chrétienne, où l'ennemi a déjà écrit échec sur ta vie, coulé, échec. Quel que soit ce qui a été ton parcours, la voix de Dieu appelle et Dieu dit, moi je veux prendre des gens si ordinaires, des gens si incapables, et je veux qu'ils viennent en ma présence. Alors qu'ils viennent à ma présence et qu'ils mettent une main sur mon épaule, je les remplis de grâce, je les remplis de force, à cause de la puissance qui agit en moi, dit l'apôtre Paul. Et alors que je les remplis ainsi, je les rends capables de sortir de ce lieu-là. Et il y en a un qui a un bâton sur quelqu'un et je leur donne la force d'y arracher le bâton des mains. Et de dire, viens maintenant, je veux te faire rencontrer celui qui a changé ma vie et qui peut changer la tienne et qui peut transformer ta vie pour toujours. Quelqu'un va dire, amen. Rencontrez Dieu, représentez Dieu. Je veux faire un appel ce matin. Je vous invite à pencher la tête, fermez les yeux. Je veux faire un appel, je vais demander au frère d'avancer la plateforme s'il vous plaît. Hallelujah. 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 Je te prie, Seigneur, pour une vague d'onction dans ce lieu ce matin. Viens, Saint-Esprit. Je sais que tu es déjà là, Seigneur. Je sais que tu es là sur ta parole. Je sais que tu es là dans le jeûne et la prière. Je sais que tu es là. Mais je te prie, viens nous visiter ce matin. Viens apporter une conviction de foi. Viens apporter une conviction de foi. Alléluia. 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 Je veux faire un appel ce matin à des hommes et à des femmes qui disent, ce matin, 29 janvier, je veux revenir à mon appel. Je veux représenter Dieu. Je veux le rencontrer afin de rencontrer les besoins de d'autres. À travers toutes sortes de choses, j'avais abdiqué ma position à l'ennemi. Je devais abdiquer ma position, je devais abdiquer mon appel, je lui ai laissé prendre. Parce que Satan a dit, quelqu'un me l'a donné, ça l'a résonné dans mon esprit, est-ce que je l'ai donné? Dans les dernières années ou semaines ou mois, j'avais donné ma position, donné mon appel, pour toutes sortes de raisons, par douleur, par amertume, par déception, par égarement, par ambition, par toutes sortes d'autres choses qui ont capturé mon cœur. Mais ce matin, il y a quelque chose en moi qui dit, je veux revenir, je veux reprendre ma position d'autorité, je veux représenter Dieu. Si le péché déforme et rend difforme, je crois en cette puissance qui transforme. Et ce matin, je veux me lever devant mon ennemi, devant le ciel pour dire, je veux prendre ma position. Je vais abandonner mon appel à l'ennemi. Et ce matin, je veux me lever pour dire, je veux reprendre ma place. Reprendre ma place
afin de représenter Dieu. J'aimerais vous demander là où vous êtes, de vous lever à vos places et de dire, me voici Seigneur. J'avais abandonné à l'ennemi, mais ce matin je me lève. J'avais abdiqué ma position, mais ce matin je me tiens. J'avais abdiqué ma responsabilité, mais ce matin je me tiens. J'avais abdiqué ma foi, peut-être ma louange. J'avais abdiqué une place devant Dieu. Hallelujah. Me voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence. Partout à travers ce lieu, des hommes et des femmes qui se lèvent. Je veux faire un appel en deuxième portion pour chacun d'entre nous et dire, Seigneur, j'accepte l'appel en 2006 à te rencontrer afin de rencontrer le besoin de d'autres. J'entends dans mon esprit mon fils rétrograde, ma fille, mon frère, ma sœur, mon père, mon petit frère, ma sœur, les gens à mon travail, les gens que je connaissais, qui marchaient avec Dieu. J'entends leur cri qui dit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se lever pour moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se lever pour moi entre les morts et les vivants? Est-ce quelqu'un qui peut mettre une main sur l'épaule de Dieu afin d'avoir une main pour venir me chercher et me toucher? Afin d'éloigner le bâton qui est au-dessus de moi. Seigneur, j'entends le cri de gens, des gens qui sont ici. Quel que soit, je veux le dire encore une fois, quel que soit le constat d'échec que tu aurais pu vivre, il y a un appel sur ta vie. Tu le sais, tu l'as su, alors que tu l'avais presque oublié, ou que tu l'as négligé, ou que tu t'en es presque défait. Ce matin, la voix de Dieu cristalline, forte, claire et personnelle te dit, je t'appelle toi. Je t'appelle toi à me représenter auprès des enfants. Je t'appelle toi à combattre pour des enfants. Je t'appelle toi à combattre pour des jeunes. Je t'appelle toi à combattre à travers les talents que je t'ai donnés. Je t'appelle toi à combattre pour les pauvres, pour les hommes, pour les femmes, pour les couples, pour les gens, pour les qui sont dans les prisons, pour des gens, pour des ministères qui n'existent même pas en Nouvelle-Vie, pour des gens dans ce pays, mais aussi pour d'autres pays. Je t'appelle toi à combattre et à aller arracher avec ta vie le bâton de la main de celui qui détruit. Je t'appelle toi à me représenter et à reprendre de l'ennemi ce qui m'appartient, dit le Seigneur. Et Dieu dit, je cherche un homme, je cherche une femme, j'ai besoin de toi pour te tenir dans la brèche. J'ai besoin de toi. Et c'est quelqu'un qui dit, ça c'est moi. Ce matin, je veux revenir à mon appel. Je veux me lever pour dire, je représente Dieu. Et en 2006, je veux rencontrer Dieu d'une manière fraîche, afin de rencontrer des gens et de rencontrer l'ennemi qui tient et tiens des gens captifs. J'aimerais vous demander de vous lever là où vous êtes à vos places et dire, Seigneur, je viens faire un vœu d'intercesseur. Je viens faire un engagement d'intercession. Je viens faire un engagement ce matin. Ce soir, la réunion est une réunion d'onction. Je voudrais que tout le monde qui est ici, à moins que vous travaillez, à moins que il y ait tellement de choses sérieuses qui vous empêchent de venir, je voudrais que vous soyez là. Et on va, c'est une réunion d'onction. Le message est sur l'onction, la louange sur l'onction, et l'appel et l'imposition des mains. Nous allons avoir le temps, prendre le temps d'aller profondément en sa présence. Mais dès ce matin, j'aimerais demander à chacun de se lever, ce qu'on peut se lever ensemble et dire, me voici à tes pieds, Seigneur. Et je veux te demander une touche de ta présence. Et pendant que nous allons chanter, j'aimerais que les intercesseurs appelés à représenter Dieu, qui acceptent la mission, acceptent l'appel, puissent lever leurs bras vers Dieu avec moi et dire, me voici, mon Dieu. Et viens me remplir, même avant qu'on chante, parce que le chant est magnifique et le chant exprime exactement ce que nous désirons, mais il est possible pour les paroles du chant même de devenir quelque chose qu'on fait. Je chante au lieu d'être en train de parler à Dieu. Alors pendant quelques instants, les musiciens vont le jouer, et pendant qu'ils vont jouer la mélodie, commencez à parler à Dieu là où vous êtes. Les milliers de voix qui lèvent vers Dieu. Commencez à lui parler, dire, me voici Seigneur. Me voici Seigneur, j'avais abdiqué ma place. J'avais abdiqué, j'avais abandonné ma position. Mais je reviens à toi dans le nom de Jésus. Je reprends ce qui m'appartient au nom de Jésus. J'ai besoin que tu me guérisses. J'ai besoin que tu me restaures. J'ai besoin que tu me délivres. J'ai besoin que tu me ressuscites. Mais je reviens à toi. Mais je viens à toi. Je me redonne à toi. Je n'abandonnerai pas à l'ennemi ce qui appartient à Dieu. Et les gens qui vont lever leur voix pour quelqu'un d'autre à qui Dieu vous appelle. Dites votre rêve à Dieu pendant quelques instants. Dans la musique, auprès des enfants, dans la louange, dans la prière, dans le ministère, dans le pastorat, dans la mission, dans toutes sortes de domaines, d'œuvres, pour des maisons de femmes, pour des hommes, pour des enfants. Pendant quelques minutes, levez votre voix et dites, Seigneur, voici ce que je crois que tu m'appelles à être. Voici ce que je veux me donner à faire. Voici ce à quoi tu m'appelles. Je vais aller enlever le bâton de ta main d'ennemi. Je vais aller enlever le bâton de ta main d'ennemi sur ces femmes, sur ces hommes, sur mes enfants, sur mon fils, sur ma fille. Ô Jésus, répand l'onction de l'intercesseur sur les vies nouvelles vies. Répand l'onction de ceux qui se tiennent dans la brèche. Nous acceptons l'appel.
Nous sommes appelés par toi à te représenter. Nous sommes appelés à toi à te rencontrer. Et alors que nous te rencontrons, je prie pour cet esprit dans chaque étudiant d'IDF. Je vais rencontrer Dieu afin de rencontrer l'ennemi, afin de rencontrer les besoins, afin d'arracher le bâton. Me voici. Me voici à tes pieds pour te demander une touche de ta présence.
Enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.